Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a des individus comme ça sur Terre qui ont l'art d'aller à l'essentiel en se débarrassant de tous ces détails qui nous encombrent et nous polluent. Des individus qui nous aident à y voir clair. J'ai remarqué qu'en général, ces mêmes individus ne se sentaient jamais pleinement à l'aise dans leur époque, ou plutôt dans les préoccupations de leur époque, et que souvent, leur réflexe naturel était de s'en tenir à l'écart en créant de toutes pièces un monde parallèle, épuré et graphique, un monde où évoluent des personnages raffinés, élégants et spirituels, plus en phase avec Oscar Wilde, Sacha Guitry, Baudelaire, Brummel ou Somerset Maugham qu'avec Jean-Marie Bigard, en un mot comme en mille, des dandies. Ces individus-là sont rares et précieux en ces temps de prêt-à-penser et de prêt-à-porter. Et nous nous consolons à peine, avec la perte de Karl Lagerfeld, de la perte de l'un des meilleurs d'entre eux. Celui que nous recevons aujourd'hui illumine depuis quelques décennies déjà le monde de l'illustration. Il s'est illustré justement dans la bande dessinée, le roman graphique, l'illustration classique ou des affiches de films. Son travail est tellement parfait et intemporel que nous n'avions même pas le besoin d'une quelconque actualité promo, comme on dit, pour avoir le plaisir de l'accueillir. Flock et l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Flock.
Bonjour.
On dit Flock ou Jean-Claude Flock?
Ah non, on dit Flock. On dit m'a Flock. Affublé d'un prénom il y a très longtemps que personne n'utilise, sinon je tape. qui est affreux, qui doit être un prénom de cette époque-là, je suppose, ouais. Mais vraiment, même mes parents n'oseraient pas
m'appeler comme ça. J'en ai connu quelques-uns, oui. Bon, on oublie alors Flock tout court, à mes côtés, Charline, on dit Charline ou Charline Roux?
Appelez-moi Jean-Claude, ce sera
Jean-Claude, je vous appelle Jean-Claude aujourd'hui. Alors, au menu également de Popopop, votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
C'est trop le délire ici, on s'éclate comme des bêtes.
Et un point fashion avec Loïc Prigent pendant cette semaine de la mode. Mais avant ça, Flock, ici, il existe une question encore plus incisive qu'une question de journaliste de mode du genre.
Tell me a secret about this dress.
Dites-moi un secret à propos de cette robe.
Mais non, notre question ici, c'est... Pour vous, Flock, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses tintinesques, parcielleuses, faramineuses, parfois même arcimoniques. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un autre dessinateur, Cyril Pedrosa. Écoutez.
Il y a une espèce d'énergie, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, une espèce d'énergie de la jeunesse, une vitalité dans la pop, quelque chose de très très instantané et qui rassemble mais d'une manière très très puissante, enfin presque comme les religions au Moyen-Âge pouvaient le faire par exemple, une communion émotionnelle aussi.
Bien. Et pour vous, Flock?
Moi, je trouve que ce monsieur que je ne connais pas a fait pratiquement la pire réponse qu'on puisse donner. Non, moi, je n'aime pas tellement le mot pop. Je le trouve très facile. Mm-hmm. Et puisqu'on a le même âge, qu'on est de la même année, je me souviens très bien que je préfère ce qu'il y a avant. C'est ce qu'on a un peu appelé l'underground ou la contre-culture. Ça, c'est des mots qui sonnent bien à mon oreille parce que ils sont... La pop, c'est comme si tout d'un coup, tout était ouvert et tout devenait dégueulasse. L'aboutissement, c'était Michael Jackson, le roi de la pop. Qu'est-ce que ce gars-là a à voir avec la pop? Et nous, on a connu des gens comme Led Zeppelin ou Pink Floyd, mais quand ils étaient underground. Et on voit ce que c'est devenu après. Donc moi, je ne veux pas vraiment en être dans
d'accord,
cette affaire-là.
D'accord, donc pop est un terme trop générique, trop ouvert.
Exactement.
Ok, très bien, mais c'est une anti-définition qui me convient parfaitement. Merci Jean-Claude, ça vous plaît aussi?
Oui, parfait.
Ok.
Je vous remercie Antoine.
Alors, je dis plus le mot, alors culture, on va en parler dans la suite de Popopop, juste après les Kinks et ce morceau Sunny Afternoon.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon.
see. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, gazing on the sunny afternoon.
Sunny Afternoon, les Kinks, c'était en 66. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un homme pas comme les autres. Mais de qui s'agit-il? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Flock, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Jean-Claude Roux.
Je vais m'embarquer, pardon. Aujourd'hui, nous recevons un invité dont je ne peux m'empêcher de penser qu'il serait au dessin ce que notre quasi-chroniqueur Sir Paul Smith est à la mode. Même élégance et adage qu'on pourrait croire commun, soit classique with a twist. Normal pour un artiste qui annonce, je cite, « Le style n'est pas une façade car il n'y a pas de forme sans fond ». Sa ligne claire fait référence, aussi bien en bande dessinée, d'Albany Esterges à la Villa Mauresque, en passant par Jamais 203, qu'en illustration, que sur les couves du célèbre et select New Yorker, que sur des affiches de films de Delépine Carverne, Mike Lee, Pascal Bonitzer, Félix Moiti ou d'Alain René, notre invité s'est lui aussi habillé les plus chics du ciné. Notre Sir Paul parle aussi de son style comme d'un mélange entre Savile Row et Mr Bean. Quelle drôle d'équation pourrions-nous trouver pour décrire celui de notre invité? Bien peut-être se risquerait-on à un mélange entre Rob Grillet et Hergé.
Ouh, un mélange entre Rob Grillet et Hergé. Ça vous conviendrait, ça?
En écriture,
oui.
Mais pas physiquement.
Non, pas physiquement.
Ah, on comprend, hein. Oui, mais ça, c'est très vrai. Ben, vous voyez que tout à l'heure, on évoquait l'underground, la contre-culture.
Oui.
Eh bien, quand j'ai commencé, on était très attirés par une forme que Rob Grillet a inventée qui s'appelait le nouveau roman.
Oui.
Et le nouveau roman, c'était très excitant pour notre esprit. Les gens n'y comprenaient rien, mais c'était justement à cause de ça. Ford, par exemple, lui demandait qu'est-ce que c'est que des bons dialogues. Il disait « Dialogues must be crispy and cryptic. » Voilà, il faut que ça soit cryptique, il faut que ça soit ou Bacon qui dit l'art doit deepen, épaissir le mystère.
Oui.
Voilà.
Très bien.
Il n'y a que là que je m'amuse bien. Et donc en compliquant Hergé via Rob Grillet, ça me va
c'est
complètement.
Pas mal. Et quand Jean-Claude dit classique with a twist, ça vous va aussi ça?
Oui, absolument. Oui. Un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est quelqu'un qui m'a dit « Je n'ai jamais rencontré un homme aussi élégant qui jure autant ». Ça me va parfaitement.
Bon. Eh bien, j'espère que vous allez beaucoup jurer dans cette émission. Flock, ne regardez pas l'heure qu'il est sur votre montre à gousset, c'est l'heure de votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié en 1813. Charline, voilà deux défauts dont nous sommes bien exemptes. Ce qui n'empêche pas bien sûr ce livre d'être un chef-d'œuvre.
C'est vrai Antoine que je ne suis pas orgueilleuse et que vous n'êtes pas un homme de préjugés. Pour ce qui est du roman de Jane Austen, il se déroule fin 18e dans la campagne anglaise. Un jeune homme fortuné et célibataire vient s'installer à côté de chez Mrs. Bennet et son mari. Eux sont désargentés et les Bennet aimeraient bien marier l'une de leurs 5 filles au nouvel arrivant.
Bien Floc, je vous ai demandé si vous voulez bien avoir l'amabilité de nous en lire un extrait. Vous m'avez dit, ben non, faites-le vous-même. Donc je le fais. Voici donc l'extrait de Jane Austen. Ouvrez les guillemets. C'est une vérité presque incontestable qu'un jeune homme possesseur d'une grande fortune doit avoir besoin d'une épouse. Bien que les sentiments et les goûts d'un tel homme ne soient pas connus, aussitôt qu'il vient se fixer dans une province, les familles du voisinage le regardent comme un bien qui doit dans peu appartenir à l'une ou l'autre de leurs filles. Fin de citation. Là, on est vraiment au cœur de la problématique Jane Austen.
En fait, oui, même si
que deviennent les femmes dans cette société où elles ne peuvent pas exister sans les hommes?
Oui, c'est vrai. Et des femmes particulièrement intelligentes, d'ailleurs. Mmh. Ça va jusqu'à au milieu du XXe siècle. Hein. Une femme comme Nancy Mitford n'aimait que les gens qui avaient de l'esprit. Mmh. Et elle s'entourait d'homosexuels parce que tous les autres ne parlaient que de chasse et l'ennuyaient terriblement. Et en même temps, elle passait pour une... Et Jane Austen, c'est Jane Austen elle-même. Mmh. Mais ce qui m'intéresse le plus dans Orgueil et Préjugés, c'est plutôt Darcy... Et Lizzie, voilà, c'est là que ça se passe. Moi, pas tellement dans l'extrait que...
Darcy, c'est donc l'homme qu'elle,
voilà,
qu'elle doit épouser.
C'est un homme qui est un peu suffisant, parce qu'il est très riche, mais je crois, un peu suffisant. C'est-à-dire qu'il n'est pas bienveillant, il n'écoute pas les autres, il ne regarde pas les autres. Moi, je me retrouve assez... avant que ma femme m'ait repris en main, à la manière de Lizzie, véritablement, pour un...
Vous étiez un Darcy.
Oui, bien sûr, voilà. Et comme Darcy, le Graal l'homme ne devient bon que via la femme. C'est évident.
Voilà qui va plaire à Jean-Claude.
Tout à fait.
Jean-Claude, bien. Alors, nous avons un livre. Il nous faut un film maintenant. Votre film culte, Floc, c'est Bonne Chance, de Sacha Guitry, sorti en 1935. Charline, je sais qu'on est très loin des films de super-héros qui vous subjuguent littéralement. Faites-nous quand même votre Madame Cinéma. Resituez-nous. Bonne chance.
Merci. Ah non, pardon.
C'est tout.
Une jolie blanchisseuse va livrer du linge. En chemin, elle croise un de ses voisins, un peintre qui lui souhaite bonne chance. Comme la cliente qu'elle va livrer est particulièrement généreuse ce jour-là, elle pense que le souhait du peintre a marché. Elle achète alors un billet de loterie et va lui en offrir la moitié. Ce qu'il refuse d'abord et puis finit par accepter.
Petit extrait.
Monsieur. Je voudrais vous dire quelque chose.
Ah, voilà une bonne idée, par exemple.
Vous ne savez pas ce que je vais vous dire.
Non, mais c'est déjà une bonne idée de vouloir me dire quelque chose.
Tout à l'heure, quand je suis sortie,
oui.
Nous nous sommes croisés, vous et moi.
Parfaitement.
Je vous ai dit bonjour et vous m'avez crié bonne chance. Pourquoi?
Pourquoi quoi?
Pourquoi m'avez-vous dit bonne chance?
Ça vous a contrarié?
Mais au contraire, ça m'a surprise et figurez-vous que ça m'a porté bonheur.
Eh bien, figurez-vous que ça ne m'étonne pas.
Extrait de Bonne Chance de Sacha Guitry, le film choisi par Floc. Alors Floc, je me suis étonné de vous voir choisir Guitry plutôt qu'Alain Resnais ou Woody Allen pour qui vous avez réalisé des affiches de films. Pourquoi Guitry?
Alors, pas Woody Allen, je veux dire, mais Resnais, j'aurais pu. Mm-hmm. Mais là, j'aurais été chercher l'année dernière à Marion Bad ou Providence. Enfin, ouais. J'aurais voulu faire mal. Ouais. J'aurais pas voulu prendre quelque chose de facile. Mm-hmm. Mais non, je prends Guitry, parce que Guitry, c'est une joie de vivre. Ce film, c'est une pure merveille. Et qui est, on a l'impression comme ça, parce que je choisis Jane Austen et puis Guitry, que je choisis que des vieilleries. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas de portable, par exemple. Mm-hmm. Et on me dit de temps en temps, comment tu fais sans portable? Et je réponds très simplement, je fais très bien, mais sans chapeau, surtout en hiver, j'y arriverai pas. Mm-hmm. Eh bien, c'est pareil, je suis pas anti-moderne, mais je suis quand même du XXe siècle. C'est-à-dire que la modernité, pour moi, ça ne sera jamais que de la vivacité de l'esprit. Vous voyez, donc oui. Montaigne, Jane Austen, Guitry sont modernes pour moi. Mais ça ne sera jamais des inventions périssables du XXIe siècle.
Oui, mais peut-être qu'aussi il y a aujourd'hui des artistes qui font preuve de la même vivacité d'esprit.
Ouais, ils sont pas nombreux, hein, ni en littérature, ni dans le cinéma. Le cinéma, c'est quasiment mort. Mm-hmm.
Okay,
voilà.
Okay.
Bon, c'est même mort, on le dit toujours, mais c'est vrai qu'en 59, avec Rio Bravo,
Ah oui, vous situez le décès du cinéma en 59
totalement,
avec
oui, c'est la perte de l'innocence. Mm-hmm. Et après, enfin, encore que moi, tout ce que j'ai fait, c'est dans la perte de l'innocence mm-hmm. aussi. On est devenu comme Arthur Penn, des gens qui faisons comme Little Big Man, des gens qui ont fait des histoires, malheureusement, en ayant connu Liechtenstein avec du recul, avec du second degré. Mm-hmm. Alors, c'est une bonne affaire, parce que c'est rigolo, mais on n'a pas l'innocence de Hergé, de mm-hmm. Ford et tout, qui sont des choses... magnifique.
C'est cette innocence que vous recherchez. Mais en même temps, faire mourir le cinéma en 59, ça nous prive des Kubrick, des Scorsese, des Coppola et compagnie. C'est dommage.
Oui, mais ce que vous venez de citer ne m'épate pas beaucoup.
Et Woody Allen ?
Pas tellement non plus.
Ok, très bien. Okay. Bon, alors laissons
si on faisait des affiches de cinéma que des films qu'on a adorés, on en aurait fait 4.
D'accord. Alors laissons le cinéma puisqu'il est mort. Nous allons passer à la chanson. Et votre chanson culte, c'est celle-ci.
A room with a view and you, and no one to worry us, no one to hurry us through this dream. We'll gaze at the sky.
A Room with a View de Noël Coward. Alors ça, ça précède encore même Sacha Guitry, puisque là, on est en 1928, il y a presque un siècle.
Oui.
Pourquoi Noël Coward plutôt que, je sais pas moi, Metallica ou Motorhead?
Quand j'ai choisi ça, ma femme m'a dit, là, tu fais le malin. Et je ne fais pas le malin, mais c'est que si vous aviez eu votre pièce de théâtre culte, j'aurais dit Noël Coward, Private Lives.
Oui, d'accord.
Vous voyez? Et donc, c'est pour contrecarrer.
C'est Noël Coward est plus connu comme dramaturge, comme producteur, comme réalisateur,
oui,
comme chanteur.
Oui, mais ses chansons sont sublime d'esprit.
Vous écoutez ça dans quelles circonstances?
Mais ça s'écoute très facilement, ça met en joie, vous voyez, là, qu'est-ce qu'il dit? On traduit pour les une chambre avec vue et toi et personne pour nous faire nous dépêcher et personne pour nous worry, nous inquiéter, quoi, voilà. c'est délicieux. Et c'est vrai, pour être honnête, que forcément j'ai aimé, je suis né en 53, j'ai connu toutes les années 60, donc j'ai aimé le blues, j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Jerry Lee Lewis, puis j'ai aimé après le Velvet. En fait, ce que j'aime, les cramps, et tout ça, j'aime quand il y a un dogme, un petit peu, comme dans mes histoires, en fait. Vous voyez, on ne fait pas des choses comme ça sur une décision idiote, c'est que l'émanation de soi.
Très bien. Eh bien, il me manque juste une série culte pour que cette pop-list soit complète. Et là, vous m'avez répondu, je n'aime pas la télé, d'ailleurs, j'en ai pas. Ok. Et vous avez ajouté, bon, allez, disons ça. Ça, c'est chapeau melon et bottes de cuir, dois-je le préciser. C'est donc le moins pire pour vous.
Oui, encore la période Diana Rigg.
Oui.
Parce que c'était une période marrante, un peu surréaliste. C'est très bien.
C'est ce qui vous plaît.
Oui, absolument.
C'est la série qui vous reste en tête.
Voilà, mais sinon, toutes les choses d'aujourd'hui... Ouais. Il faut comprendre une chose. Moi, mon métier, c'est d'être flog, c'est-à-dire c'est de vivre, tout simplement. Mmh. Et donc, si on veut avoir une belle vie, il y a la place de placer plein de choses dans une seule journée, mais à condition qu'on n'ait pas de portable, qu'on n'ait pas de télé, et qu'on ne regarde pas toutes ces séries. C'est chronophage, vous voyez. Moi, pendant ce temps-là, je m'amuse comme un fou.
Alors, Jean-Claude, que dire pour convaincre un peu plus notre invité? Non pas d'acquérir une télé pour regarder Les Anges de la télé-réalité ou Marié au premier regard, non, mais pour y voir des bonnes séries. Tiens, choisissez-en une pour Flock, je vous prie.
De manière très arbitraire, je vous propose The Crown, l'Empire britannique et la vie d'Elizabeth II, vue par Peter Morgan et Stephen Daldry, à qui on doit le film Les Heures. On attend la troisième saison avec une impatience froufroutante,
flegmatique. Non. C'est un mauvais choix, ma chère Charlie.
Mais pourquoi, expliquez-vous.
Mais pourquoi? Parce que on connaît ces gens-là par cœur et physiquement. Et vous regardez d'autres personnes et vous n'y croyez pas du tout. Donc c'est complètement, c'est absolument aberrant.
Vous ne croyez pas en l'incarnation de la reine par une actrice?
D'abord, le prince Philippe et puis les autres. Mais en plus, même on connaît toute l'histoire. Et donc, ce que ce type raconte, c'est ou pas assez ou trop.
Ou trop, oui.
Vous voyez?
Moi, je me roule dedans. Oui. Bon, vraiment.
Avec délectation. Je pourrais vous raconter des choses sur Philippe d'Édimbourg et tout, qui vont beaucoup plus loin que ceux qu'ils osent dire.
D'accord.
Et ça, c'est très... Voilà.
Okay. On fera ça juste après l'émission, si vous le voulez bien. Alors, je résume. Orgueil et préjugés, Sacha Guitry, Room with a View, chapeau melon, bottes de cuir. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
A room with a view.
Monsieur.
Très mauvais.
Tout à l'heure, quand je suis sortie.
And no one to worry us, no one to hurry us.
Oui.
Nous nous sommes croisés, vous et moi.
Parfaitement.
Je vous ai dit bonjour et vous m'avez crié bonne chance.
C'est une vérité presque incontestable qu'un jeune homme possesseur d'une grande fortune doit avoir besoin d'une épouse.
Eh bien, figurez-vous que ça ne m'étonne pas.
Voilà ce qui se promène dans la tête de Flock, notre invité.
Un patchwork.
Ce petit patchwork, ça vous convient ?
Ça me va.
Bon. Alors, Flock...
C'est un petit ça me va, si je peux me permettre.
Ça me bat du lundi. Bah alors, Flock, avant de parler de vous, faisons un petit bond spatio-temporel. Passons de Noël Coward à Gorillaz avec le morceau « Dare ». Gorillaz, Dare, c'était en 2005 sur l'album Demon Days et aujourd'hui dans vos oreilles dans Pop 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 sur France Inter, que vous soyez chez vous, au bureau, dans votre voiture ou sous votre douche comme Philippe Catherine qui nous écoute, enfin qui nous égoutte chaque jour depuis sa salle de bain. Nous sommes toujours en compagnie de Flock. Alors généralement, mon cher Flock, je commence toujours mes interviews en expliquant la raison de la venue de notre invité. Alors vous, c'est bien sûr pour évoquer votre œuvre, mais aussi plus prosaïquement parce que nous nous sommes croisés sur le marché un dimanche matin devant le stand de volaille. Vous avez opté pour un poulet fermier et de mon côté, j'ai préféré une pintade. Alors, question simple. Le poulet dominical, tradition ou modernité ?
Non. Rien de tout ça. Mais non, j'y vais presque il se passe que c'est tout près de chez moi, alors oui, que vous faites du chemin.
Je me déplace, moi.
Pour le bio, moi, je trouve que c'est pas... je trouve ça très laid. En général, les pommes sont dégueulasses, ouais. Sont moches. Et donc, j'obéis à ma petite femme. Allez, hop.
D'accord. Alors, le poulet, c'est un flic. Flock qui dévore un flic, c'est dans l'ordre des choses, bien sûr. Surtout que ce jour-là, souvenez-vous, il pleuvait à torrents et nous étions au milieu d'une flaque.
Ils veulent la faire.
Flic. Évidemment. Absolument, mais oui, je vous l'ai fait.
Vous qui placez le style au-dessus de tout, comment peut-on rester stylé au marché, sous la pluie, en achetant un poulet ? C'est un vrai dilemme.
Oui, pas comme lui était habillé, avec une doudoune, un chapeau, un truc moderne. Mais moi, je pense que j'étais pas mieux, parce que quand on se lève tôt le matin pour justement ne pas être avec tous les amateurs de bio à midi, on prend un petit peu ce qui vient. J'espère que je n'étais pas trop... Mais on s'en fout surtout.
Non, oui, non, on s'en fout, c'était vraiment une entrée en matière. En fait, après avoir évacué ces considérations volaillères, vous m'avez appris votre intention de quitter Paris pour la Côte Basque prochainement pour aller profiter du reste de votre existence.
Et vous m'avez dit, tout le monde part. Parce que venez faire mon émission avant de partir.
Alors, ça ressemble à une retraite, mais est-ce qu'un artiste prend sa retraite, Flock ?
Non, non, ça ressemble pas du tout à une retraite, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, comme vous dites, un artiste, parce que malheureusement, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais je sais bien que je suis pas un artisan.
Vous voulez le remplacer par quoi ?
Oh, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas un artisan, dans le sens où je suis pas très patient et je suis pas très modeste.
Non, vous êtes un artiste.
J'ai des projets, j'ai des grandes exigences artistiques, donc dans ce sens-là, peut-être que j'en suis un.
Ouais.
Mais quelle était la question ?
La question, c'était, est-ce qu'un artiste prend sa retraite ?
Non, en l'occurrence, je pense que c'est pas ça, c'est plutôt faire des tranches dans votre propre vie et dire... maintenant, je casse la matrice qui a duré, mettons, 40, 50 ans, là, maintenant, et je passe à autre chose, c'est-à-dire un autre rythme et tout. Mm-hmm. Et pour faire ça, on ne le fait pas nous-mêmes, parce qu'à Paris, tout va trop vite, et voilà. Et donc, on le fait autrement. Et si je peux vous faire rigoler, j'ai même pris un chien, alors que je déteste les chiens, pour me ralentir mon rythme.
À quelle fréquence dessinez-vous aujourd'hui ?
À quelle fréquence ? Alors, comme je suis... rayon chic et cher, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup et je travaille très rapidement. Donc vous voyez, ça me laisse vraiment beaucoup de temps.
J'entends par là, pas de dessin par pur plaisir, juste comme ça
pas trop, curieusement. Je ne suis pas fou de ça. Je sais faire quand il faut. Si ma femme est dans son divan et tout d'un coup, la pause me plaît, je peux aller chercher un machin et me débrouiller correctement. Mais je dirais pas trop parce que moi, je suis quelqu'un qui dessine avec une idée.
Ouais.
Vous voyez, donc si c'est l'idée qui me fait soulever mon crayon, sinon non, je préfère lire, me promener, faire n'importe quoi.
Alors cet aveu de votre départ de Paris pour la Côte Basque, ça me rappelle la chanson de Gainsbourg, hein, je suis venu te dire que je m'en vais, mais la vraie raison de votre présence, c'est le plaisir d'échanger avec vous et d'évoquer vos riches heures, comme disait le duc de Berry. Alors pour commencer, comment vous définissez-vous ? Je sais que vous n'aimez pas le mot auteur de BD, même si c'est avec elle que vous avez démarré, c'était en 77 avec les rendez-vous de Seven Oaks. Alors, on dit quoi ? Dessinateur ? Illustrateur ?
Non, illustrateur, c'est ce que je dis, parce que c'est un joli mot, et puis ça fait modeste, mais j'ai envie de dire que je ne suis pas un illustrateur, dans le sens, ça serait illustrer quelque chose, or je n'ai jamais fait rien d'autre que dessiner sur... ce que moi je décide de...
Votre propre inspiration.
Voilà, exactement. Donc, non, je dirais qu'on peut être un auteur, même quand on fait une couverture du New Yorker, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de headlines, et donc l'image, c'est vous parlez de vous. L'auteur, c'est celui qui veut parler de lui. J'ai entendu dernièrement cette définition qui est pas mal, c'est la vie perçue... à travers le prisme d'un tempérament. Voilà, un tempérament. Voilà, et je ne sais pas faire autre chose que ça vienne de moi. Je fais des bouquins pour enfants. En fait, c'est des bouquins, encore une fois, sur moi. Je suis mon propre...
Votre propre matière première.
Ouais. Oui.
Qu'y a-t-il de commun entre le Flock de 77 et celui de 2019 ?
Alors, c'est une bonne question, mais il faudrait 3 heures pour y répondre. Non, je dirais que simplement, quand je revois des dessins de cette époque-là, je n'en ai pas honte, curieusement. Je trouve que ça tient le coup, même si j'ai évolué en dessin, mais je n'en ai pas honte. Ça tient bien. Blitz, par exemple, c'est encore formidable. On dirait du Hitchcock, période anglaise, tout ce que j'aime. Voilà. Mais pour le reste, l'homme, forcément, lui a changé. À l'époque, j'étais un moderne, qui aimait le rock, des choses comme ça. J'ai même les cheveux longs, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, forcément, j'aime le Grand Tour. Vous savez, quand vous avez aimé Picasso, Miro et puis tous les autres, à un moment, tout d'un coup, vous dites, mais ça ne m'intéresse plus du tout. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez en arrière et vous allez voir tous les grands anciens. Et alors là, c'est un festival, Holbein, Gainsbourg, Turner et tout ça. Et là, on est heureux pour jusqu'au bout, sans faute.
Un mot, justement, sur l'évolution de votre trait, très épuré. Directement dans la lignée de la ligne claire belge. Hein. Hergé a eu une importance capitale pour vous. Est-ce qu'il en a toujours aujourd'hui ?
Oui, Hergé, encore une fois, vous voyez, je vais répondre à ça. L'album de Hergé que je préférais quand j'étais môme, j'étais sans doute le seul à choisir celui-là, c'était Les Bijoux de la Castafiore.
voyez, j'étais prêt à faire ce que j'allais faire. Ben parce que les bijoux de la Castafiore, c'est presque du nouveau roman. Mm-hmm. C'est que des fausses pistes. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Et ça me plaisait bien plus que tout le reste. Parce que si j'ai apporté quelque chose à la bande dessinée, c'est la déconstruction du récit. Ouais. Mais c'est aussi, j'ai voulu tuer l'aventure. Je voulais absolument faire des histoires autour d'une tasse de thé. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'il y ait absolument l'aventure. Le génie d'Hergé, d'ailleurs, c'est de créer une atmosphère très psychologique, très forte, très intimiste, mais dans l'aventure. Hein. Mais sinon, moi, ça ne m'intéresse absolument pas.
Y a-t-il d'autres illustrateurs, dessinateurs qui ont eu une influence capitale sur votre travail ?
Oui, mais alors, ce n'est pas du tout dans la bande dessinée. Vous voyez, ça peut être Gruot, ça peut être... Il y a des dessinateurs de mode comme Villomès ou bien comme Eric, ils appelaient Ericsson, mais qui signaient Eric, qui étaient des types avec un coup de pinceau absolument extraordinaire. Moi, en fait, je n'aime pas faire partie d'une coterie, et j'aime par exemple aussi beaucoup Jigé, vous voyez, parce que lui, c'était le contraire de Hergé, c'est-à-dire il avait un coup de pinceau absolument incroyable, qui pouvait amener à des petits défauts, alors que Hergé, tout est contrôlé, vous voyez. Dans ma vie, c'est un peu comme ça, j'essaye de ne pas être trop ligne claire, justement, mais je ne veux pas, je ne suis pas non plus un ligne crade comme humain. Vous voyez, j'y arriverai pas.
Floch, on n'en est pas à l'heure des bilans, mais le fait est que vous avez signé un livre pour enfants intitulé Une vie exemplaire. Est-ce que vous êtes satisfait de la vôtre ?
Disons que quand j'avais 18 ans et que j'étais pas très content de la vie, j'ai dit maintenant il faudra que tous les jours ça soit mieux. Sinon, boulette.
Une balle dans la tête.
Ouais. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Et vous savez, quand on a mon âge, à 60 ans, par exemple, j'ai demandé à La Martinière de faire un livre sur tout mon travail. Mmh. Et je vous raconte cette petite histoire assez amusante, ce que j'ai ressenti. Et c'est qu'un jour, Tony Curtis, l'acteur, va à un TV chat américain et on lui demande « Est-ce que vous pouvez résumer votre vie ?» Et il dit « Oui, je suis arrivé très jeune à Hollywood, sans argent, je me suis installé dans un motel cheap, j'ai pris une douche, je me suis rasé, je suis venu vous voir. » Eh bien, à 60 ans, c'est exactement ce que ça m'a fait. Et curieusement, j'en ai pas été triste, je me suis dit « Ah, c'est gagné, c'est plus à faire. » Parce que moi, il faut pas me faire revivre tout ça. Hein.
Dans ce même livre, vous faites la liste de ce qui rend une vie exemplaire. Justement, ça va de former une famille à avoir les doigts de pied en éventail, en passant par savoir se mettre à la place des autres ou garder ses illusions. Est-ce que vous avez gardé toutes les vôtres ?
Oui, je pense. Alors, c'est prétentieux de dire ça, mais je ne me crois pas bourgeois du tout. Bien sûr, Oscar Wilde, je pense qu'il faut penser en artiste et vivre en bourgeois. J'aime le confort et les très belles choses, hein, les vases grecs et puis tout ça. Mais je ne me sens pas du tout bourgeois. J'ai toujours un esprit qui non pas qui aime foutre la merde, mais je n'aime pas...
Le conformisme.
Et comme disait Guitry, il ne faut pas faire cible. Vous voyez, moi, je ne fais pas cible.
Vous recommandez également d'aller souvent à Londres, mais quelle bonne idée. Tout votre travail a été profondément marqué par une Angleterre fantasmée, au point d'en avoir fait une sorte de pays imaginaire.
Oui, ben, j'ai bien fait, parce que quand vous dites maintenant, ça n'a plus de valeur de dire aller souvent à Londres, c'est horrible d'aller à Londres, il fait beau. Moi j'ai connu une époque, il y a très longtemps, vous avez dû connaître ça, il y avait même du smog. Tout d'un coup on disait, oh merde, où il est mon copain? On ne le voyait plus à un mètre. Et aujourd'hui, il n'y a que des Français, on entend parler français, c'est une laideur incroyable, il n'y a plus de magasins. J'avais rencontré Pierre-Jean Rémy, l'écrivain, qui m'avait dit très justement, Londres est une ville pour les hommes et Paris est une ville pour les femmes. Et c'était tellement vrai. Parce que maintenant, tout est pareil. C'est donc horrible. Donc, je ne vais plus du tout à Londres.
La mondialisation a eu raison de votre passion pour Londres.
Ah oui, complètement. Donc, je vis dans un... Vous savez, c'est comme aujourd'hui. Qui peut m'interdire d'être ce que je suis? Je vis au XXe siècle, puis peut-être même en 1930, je n'en sais rien. Mais regardez les bâtiments dans la rue. Ça marche très bien. Et c'est même les plus beaux, hein, parce que les autres, ils se cassent la gueule. Donc, ben, moi, je suis de ça. Je suis du... Oui, je serai du XXe siècle, sans doute, jusqu'au bout.
Jusqu'à la fin.
Oui. Okay.
Mais alors, autant vous alliez à Londres régulièrement, qu'est-ce qui vous plaisait tant chez nos voisins ? Leur humour, leur...
Ah ben, quand vous dites leur humour, il y a un écrivain qui s'appelle Martin Amis, qu'on a eu marre à un moment de Londres, il est parti à New York s'installer, et deux ou trois ans après, il y a un journaliste qui va le voir et qui lui dit « ça va, vous êtes toujours content à Londres ?» Il dit « Non, je vais revenir parce que ici, they miss the irony. » C'est-à-dire que les Américains, ils n'ont pas d'ironie. Et il dit « À Londres, même un chauffeur de taxi a de l'ironie. Ouais, » ouais. Et l'ironie, c'est fondamental.
Est-ce que vous avez le sentiment, Floch, d'avoir développé cette utopie personnelle si chère cher à Henri Michaud que vous citez dans votre inventaire, je cite, hein, « ce royaume immense, incomparable et presque indécouvert dont je suis, dit-il, l'irremplaçable roi ».
Quelle belle phrase, n'est-ce pas ? Magnifique. C'est bon pour tout le monde, ça. Ouais. On la donne comme ça, sans faire payer, mais c'est cadeau. Mmh. Hein, parce que vraiment, il y a tout là-dedans. Je veux dire, ça donne une confiance en soi absolument fabuleuse. Il faut bien relire les mots.
Je recommence. Oui. Ce royaume immense, incomparable et presque indécouvert dont je suis l'irremplaçable roi.
Voilà. Eh ben, en effet, je pense avoir fait ça. Et je dirais même que ce n'est pas le tout de le faire dans son travail, c'est qu'il faut le faire dans sa vie. Mmh. Vous voyez ? Et je m'amuse comme un fou.
Floc, ici, vous savez, c'est un peu comme dans Sacré Soirée, enfin Feu Sacré Soirée, nous avons un invité mystère avec qui vous avez travaillé et qui a voulu vous saluer. Nous l'avons au téléphone. Bonjour Jean-Luc Fromental.
Bonjour, le mystère a été vite évaporé.
Ben oui,
donc.
C'est jamais très long chez nous, le mystère. Alors Jean-Luc, vous êtes une des figures, une des grandes figures de la bande dessinée. Vous avez travaillé avec Floc depuis les années 80. Vous avez réalisé de nombreux ouvrages, notamment l'inventaire qui revient, dont on parlait à l'instant, hein, qui revient sur les 40 ans de carrière de Floc. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, selon vous, ce Floc? Comment se différencie-t-il de tous les autres dessinateurs, illustrateurs?
On s'est rencontrés au milieu des années 70, c'est-à-dire au milieu de nos 30 glorieuses à nous, qui sont décalées de 10 ans par rapport à celles des économistes, les années 65 à 85, dans une époque où tout le monde à peu près était un être extraordinaire dans cette espèce d'effervescence de ces années-là. On s'est rencontrés chez un autre homme extraordinaire qui était Stan Barrett, qui dirigeait la librairie Temps Futur à l'époque. Et pour une raison inconnue, qui relève du coup de foudre, je crois qu'on ne sait plus tout de suite, et parce que je pense qu'on était aussi différents l'un de l'autre que c'était possible. Mmh. Et donc, les contraires s'attirent, comme chantait Paula Abdul, et donc on a été très vite très amis, très proches, dans une époque où on vivait entouré de gens... agité par la création, ne cessant pas de vouloir inventer des choses. Et j'étais très frappé par ce garçon qui n'avait pas encore sorti son premier album, le Rendez-vous de Seven Oaks, mm-hmm. qui devait marquer l'histoire de la bande dessinée, au sens où, avec Rivière, ils ont fait rentrer, je dirais, Borges et Rob Grier dans ce monde qui était plutôt dévolu jusque-là à Lucky Luke et à Astérix. Donc on s'est plu beaucoup, et comme on était très différents, je pense qu'on a pratiqué une sorte d'échange rituel. Il m'a apporté cette espèce de légèreté d'homme volant qu'il avait, et je lui ai apporté, je pense, une sorte d'ancrage. Plus tard, quand on a fait des livres ensemble, on s'est comparé au mobile et au stable de Calder. Mmh. Et ça a été un être essentiel dans mon existence, au sens où il avait quelque chose que je n'avais pas, et inversement.
Bah écoutez, faut vous revoir. Floc, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, on se voit de temps en temps, encore. Mais bien sûr, tout ce qu'il dit est exact. Il m'a apporté énormément. On s'est beaucoup amusé. C'était une époque où on ne pensait pas à l'argent. Mm-hmm. On pensait à l'art, à s'étonner soi-même, mm-hmm. à étonner l'autre. Et puis, les filles, la musique et mm-hmm. tout. Et ça faisait tout notre bonheur. Il y avait vraiment la place pour ça. C'était une époque merveilleuse.
Bien. Merci infiniment, Jean-Luc, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je vous en prie, cher Antoine.
Merci et à très bientôt, j'espère.
Floc.
Salut, vieille branche.
Salut, vieille branche. Merci, Jean-Luc. Bien, Floc, avant de vous laisser filer, est-ce que vous savez faire ça?
Pour moi, un gentleman est quelqu'un qui ne fait pas de mouvement physique.
Oui.
Pas de sport, bien sûr, et tout ça.
Sûr.
Alors, ce que vous me demandez...
Oh, c'est un peu sportif, quoi.
Ouais, je veux bien essayer, mais allez. Je crains le pire.
Vas-y. Pas mal.
Oh, nul.
C'est pas mal. Non.
Nul.
On peut l'arranger.
Non, j'aurais préféré que vous me demandiez de chanter A Room with a View and You, and No One to Worry Us, No One to Hurry Us. Ooh.
Mais ça me va très bien. Merci infiniment, Floc. C'est pour lancer de toute façon les Pop News.
Il faut être sacrément gonflé pour appeler son nouvel album My Finest Work Yet, à moins que ce ne soit vraiment le cas. Et en écoutant le premier single d'Andrew Bird tiré de cet album, on se dit qu'a priori, il a raison. « Ce titre, c'est Sisyphus. L'album s'appelle donc My Finest Work Yet. Il sortira le 22 mars et Andrew Bird sera en concert au Trianon à Paris le 14 juin.
On parle beaucoup du phénomène Marie Kondo, reine du rangement, qui a eu les honneurs d'une série dans laquelle il ne faut garder que les objets qui nous apportent de la joie et qui nous engagent à faire des câlins à nos jeans, par exemple. L'animateur du Late Show de la chaîne CBS en a tiré une parodie dans laquelle il joue les coachs en rangement, épaulé par un Jean-Claude Van Damme aux méthodes expéditives. La question posée aux gens à coacher est donc, ces objets vous apportent-ils de la joie ?
These plates here, joy ? Any joy in these plates ?
No.
No ? What about this rice cooker?
Yes, I use that all the time.
It does spark joy. There yes. we go. Okay, well that's great. No, John, that was a joy one. That sparks joy.
Oh, sorry, I just blackout.
James Corden et Jean-Claude Van Damme. Une vidéo à retrouver sur la page de Pop à Pop sur franceinter.fr.
Et un conseil lecture pour les amateurs de science-fiction et de filles qui bardent en version dessinée, ça s'appelle Bolshoï Arena, ça se passe dans un futur proche. Et le Bolshoï, c'est un réseau mondial de réalité virtuelle qui a remplacé Internet. Réalité virtuelle qui a relancé l'exploration spatiale via un immense simulateur. Marge, l'héroïne étudiante en astrophysique, va y faire ses premiers pas avec son amie Dana. C'est dément et c'est signé Hassène Eboulé, c'est publié chez Delcourt.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Jean-Claude Van Damme.
Un petit peu Jean-Claude Van Damme, oui. Ouais.
Merci de loin, alors. Charline et merci infiniment Floc d'être passé par notre
merci
studio. L'intégralité de votre œuvre était évidemment disponible dans les bonnes librairies. Pas sur Internet, hein, vous avez remarqué, j'ai pas parlé d'Internet. Bien, avant d'accueillir Loïc Prigent pour nous expliquer ce que signifient vraiment les phrases compliquées qu'on entend dans les défilés, écoutons le nouveau morceau des Raconteurs, le super groupe réunissant Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence et Patrick Killer. Et le morceau, c'est « Now That You're Gone ».
Now that you're gone.
Now That You're Gone, dernière pépite pop signée des Raconteurs, le groupe de Detroit. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et vient de nous rejoindre celui qui rend son Instagram si vivant ici dans ce studio, Loïc Prigent. Bonjour Loïc.
Bonjour Antoine.
Vous avez réussi à vous enfuir de cette Fashion Week pour venir dans Pop Pop Pop.
Oui, à peine, à peine. C'est Fashion Week, c'est tout le temps Fashion Week. C'est les journalistes de mode ont presque autant de boulot que les journalistes de foot, je crois maintenant.
Je vois, et en pleine Fashion Week, de quoi allons-nous parler alors?
Eh ben, de comme il y a des défilés tout le temps, ça devient de plus en plus difficile de se renouveler pour décrire tout ça. Mm-hmm. Donc je vais vous faire un petit point sur comment les journalistes de mode se renouvellent, parce que c'est une leçon pour nous aussi, ce renouvellement du vocabulaire
grande
permanent.
Grande leçon de l'existence même, je pourrais dire.
Donc tu dis pas « c'est basique ».
Ah bon?
Non, faut pas dire c'est basique. Tu dis tout est assemblé dans cet absolu qui encapsule ce qu'on appelle l'alphabet féminin contemporain.
C'est plus long.
Ah oui,
c'est plus long. Ouais, c'est
plus précis aussi. Un vocabulaire de la garde-robe du présent et des coupures qui composent avec la lumière. Les coupures qui composent avec la lumière, ça marche pour tout. Hein. Quand t'as court, violet, ben tu dis que c'est une coupure qui compose avec la lumière, par exemple. Tu dis pas c'est beige.
Ah bon?
Non.
Qu'est-ce que
tu dis? La créatrice affûte les codes et les pièces emblématiques BCBG en gardant la distance qui leur donne un supplément de modernité.
C'est plus long.
Ben, c'est mieux. Tu dis pas c'est hyper bourge, tu dis elle réactualise la chaîne de baptême. C'est bien ça, non? J'ai lu dans Marie-Claire, ça. Tu dis pas vert, tu dis des décharges d'absinthe viennent électrifier les matières.
Oh, c'est beau.
C'est plus long.
Pas mal. Jolts of absinthe. Tu dis pas rose, tu dis un lilas ciré très précis.
Ça se raccourcit.
Tu dis pas bleu pâle, tu dis comme un clin d'œil à l'univers de l'enfance qui vient réveiller les chemises.
C'est beaucoup plus long.
Tu dis pas c'est jaune, tu dis un soleil color block vient estivaliser la silhouette.
Ça veut dire qu'on est habillé tout en jaune, on est d'accord?
Ouais, voilà. Okay. Mais, hein, tu vois, ça marche.
Ah ouais.
Ça marche.
C'est bien.
Tu dis pas c'est noir, tu dis c'est sans compromis. Tu dis pas c'est noir et blanc, tu écris l'épure et la réflexion font sensation. Ça veut dire que c'est
noir. C'est beau, ça.
Ouais.
C'est magnifique.
Tu dis pas marron, tu dis subtilement camel.
Bah, c'est plus joli que marron.
Bah oui.
Pour le coup.
Bah oui. Mm. Ah, j'aime bien ton polo marron. Non.
Non.
Ah, j'aime bien ton polo
subtilement camel.
On peut acheter une boîte de subtilement camel alors?
Bah oui. Oui, voilà, exactement.
Dans les épiceries, vous voulez dire? Bien sûr,
si je vais acheter une boîte de marron.
Tu dis pas c'est une chemise à carreaux, tu dis une mode pastorale et confortable inspirée par les pionniers. Un appel à l'esprit de communauté. Mm. Tu dis pas c'est un portable, tu dis les volumes sont oniriques. Tu dis pas c'est le bordel, tu dis un foisonnement d'idées qui s'autodisrupte. L'autodisruption.
Alors la disruption vient aussi dans la mode.
C'est le nouveau truc employé par les critiques américains. En gros, ça consiste à faire la même chose que d'habitude, mais en bordélique.
Très bien.
Tu dis pas il se passe absolument rien, on s'ennuie à crever. Tu dis il réinterprète le minimalisme. Non, mais le journalisme de mode, c'est bien parce que ça sublime la répétition, ça met de la poésie partout, ça ne voit que du positif. Mm-hmm. Je pense qu'on a tous besoin de journalisme de mode en nous, qui nous, ou d'un journalisme de mode derrière nous, qui nous souffle une nouvelle version de ce qu'on vit au quotidien. Par exemple, vous n'avez pas vécu aujourd'hui une journée de merde?
Non.
Non, vous avez eu une journée autodestructive, subtilement camel.
Autodestructive.
Ah oui, c'est bien comme ça.
Subtilement camel,
ouais.
Ben oui. Mais si on assemble toutes ces phrases que vous venez de nous donner en exemple, ça fait un roman.
Ou un article de mode.
Ou un article de mode, pardon. Ouais. Évidemment, nous y sommes. Bien, merci.
Et pour dire merci, on a un autre truc ou on se contente de dire merci?
C'était sublime.
C'était sublime, Loïc.
Merci Loïc, merci pour ce commentaire tout à fait objectif. Merci Loïc, courage pour cette Fashion Week qui a débuté lundi et qui se termine mercredi prochain. Mais attendez, c'est plus une week en fait alors?
Non, c'est vrai, c'est une 10 jours week.
C'est une 10 jours week?
Ouais, je sais pas comment on appellera ça.
Il faut inventer un nouveau terme.
Week.
Il y a des gens qui disent Fashion Month maintenant.
La Fashion Month.
Ouais.
D'accord. Bien, je vous laisse revenir la prochaine fois avec la nouvelle appellation pour la Fashion Week. Merci Loïc de nous avoir rendu visite. Cette Fashion Week n'a donc pas beaucoup de sens, tout comme le magnéto Le Grand N'importe Quoi d'Alexandre Verret que je vous diffuse chaque vendredi. Je vais d'ailleurs aller voir s'il a été livré. Allez. Ouais. Le magnéto descend mon monte-escalier Stana. C'est long. Oh, c'est long. Oh, oh là là. Bon, allez, lancez le magnéto. Allez, 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 allez.
Bon, les gars, faut que je parte, là. J'ai plus que 9% de batterie. Hein.
Allez, vas-y, reste un peu, là.
Allez, encore un petit peu.
Ok, mais pas longtemps.
Oh, my God.
carnet en poisson rouge. Oh, ça alors! Je suis des nageoires à la place des bras. Ah, mais oui, c'est vrai! Je suis été réincarné en poisson rouge. Oh, ça alors!
N'importe quoi, n'importe quoi!
Oh, papichou, raconte-nous une histoire!
Oui, raconte-nous une histoire!
Oh, s'il te plaît!
Over. Merci Alexandre Verret, le grand n'importe quoi c'est chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Bon, bah, comme je suis là, je vais jouer un vinyle, hein. Tiens, Paul Naref, Oiseau de nuit.
Love me, please, love me. Non, ce n'est pas une demande, Jean-Claude, mais le titre de l'album de Michel Polnareff. Et nous venons d'entendre Oiseau de nuit à l'instant pour terminer ce pop-pop-pop. Voilà. Merci à tous et merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Michael Bessiquian, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Coulet, Simon Restat, nous attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Lundi dans Pop Pop Pop, Franck Gastambide. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos beauté sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
C'est bambou ça, non? C'est un petit peu, bambou. Ouais.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.